Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Grosse nouvelle chez Tennis Canada. Alors qu'Eugène Lapierre annonce sa retraite, c'est Valérie Tétrault qui prend la relève à titre de directrice de l'Omnium Banque Nationale. On reçoit les deux au podcast. On parle également de la Billie Jean King Cup où le Canada aura une équipe d'étoiles. On va évidemment regarder ce qui s'est passé en termes de résultats également la semaine dernière. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
OK, oui.
C'est parti.
Salut, salut tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. D'ailleurs, concernant ce tournoi-là, il y a des gros changements. Mais d'abord, salutations d'usage. Nicolas Richard, comment te portes-tu en direct de ton garage?
Ça va très bien. J'espère que vous n'entendez pas les convives qui sont à Saint-Jérôme. C'est pour ça que je suis dans le somptueux garage de la résidence familiale.
On est content de savoir que nous sommes ta priorité et non pas tes invités à la maison. Alors, merci Nico de faire ça pour nous. Hugues Léger qui a fait une grosse semaine pour le podcast, entrevue après entrevue. Comment te portes-tu?
Ben, ça va bien. Puis on est chanceux d'avoir un accès privilégié à la très belle équipe de Tennis Canada. Ça a été une semaine forte en émotion, mais on est surtout content de la continuité qui s'installe à Tennis Canada avec une jeune directrice talentueuse du tournoi en la personne de Valérie Tétrault. Et c'était bien de rendre tous les hommages à Eugène Lapierre, tout ce qu'il mérite pour tout ce qu'il a fait pour le tennis depuis plus de 20 ans, parce que c'est plus loin que 2001, même son implication, on le sait. Donc, ça a été une belle semaine, je suis très content. Et je porte mes couleurs d'automne aujourd'hui. On range le stock de piscine aujourd'hui. Donc, on est avec vous aujourd'hui, les gars.
Toi, Nico, as-tu déjà rangé ton stock de piscine à Saint-Jérôme?
Oui, nous autres, ça s'est fait la semaine passée. Là, la transition automnale était ranger le stock d'été, sortir la souffleuse et les pelles, ça s'est fait la semaine passée.
Commencer ton entraînement pré-ski également.
Tout à fait. On peut voir, vous ne voyez pas, là, mais on voit l'équipement de ski là, qui commence à faire les ski de fond, ski alpin. Ça arrive bientôt. Rarement sur une aussi grosse bordée de neige en octobre.
Bien joué. Nico, quand on a vu la nouvelle concernant la retraite de... Eugène Lapierre, est-ce que ton premier réflexe était de dire le prochain, c'est Hugues Léger? Est-ce que tu t'es dit comme moi, Hugues Léger va être directeur de l'Omnium Banque?
Au début, je pensais que l'agent libre Roger Federer allait venir chez Tennis Canada. Probablement que Roger a décliné l'offre, ce que je comprends tout à fait.
Il l'a refusé, il n'a pas eu une bonne entrevue, ça a l'air.
Il a juste, c'est ça. Roger, on le sait, c'est pas un gars qui est très vocal, pas un gars qui est très sociable, non. Alors il a bousillé son entrevue. Mais non, blague à part, ça a été quand même une nouvelle assez surprenante, révélatrice aussi. Puis non, je pense que ça a secoué les colonnes du temple, mine de rien, chez Tennis Canada.
Les gars, on ne perdra pas trop de temps parce que, comme je le disais en introduction, Hugues Léger a rencontré, a eu la chance d'avoir ensemble Valérie Tétrault et Eugène Lapierre. Si ça ne vous dérange pas, les boss, on va les écouter, puis on s'en reparle après.
Donc, on est chanceux d'avoir aujourd'hui sur la ligne les deux principaux leader du tennis canadien ou de l'Omnium Banque Nationale à tout le moins, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Puis je voulais vraiment vous inviter tous les deux ensemble pour parler peut-être pas autant des accomplissements et de tout ce que tu as fait depuis 20 ans. Eugène, on l'a beaucoup couvert avec raison, mais je voulais parler un peu de la relation entre toi et Valérie qui s'est construite au fil des 20 dernières années, puis comment Valérie arrive maintenant à un jeune âge, quand même 34 ans, à être la directrice du tournoi à Montréal. Moi, je l'ai connue, Valérie, aussi dans sa première phase de post-carrière de joueuse, et tout de suite, j'ai vu son potentiel et ça s'est réalisé quand j'étais à TVA Sport, tu te souviens, Eugène. Donc, je veux qu'on parle un peu de toi, comment tu as connu Valérie au début, en fait. Quand sa carrière s'est terminée. Comment ses premières années se sont passées à Tennis Canada?
Oui, ben c'est intéressant que tu remarques. J'en ai parlé un petit peu hier parce que c'est une anecdote qui était quand même clé quand j'ai remarqué Valérie pour la première fois, dans le sens de dire il y a quelque chose là qui peut être très bon pour le tennis, en dehors du fait qu'elle joue très, très bien et qu'elle est une professionnelle accomplie. Et ça se passait là. lors de sa dernière année chez les professionnels en 2010. Ça fait quand même 12 ans de ça. Et on lui avait octroyé un laissez-passer pour le tirage, mais pour le tableau en 2010 à Montréal. Mais ce n'est pas ça l'histoire. C'est qu'on avait une grosse annonce à faire sur le développement du Centre national. Parce que Borfiga nous avait dit que ça prenait des terrains de terre battue pour développer les jeunes. Il disait, je ne serais jamais rien si je n'ai pas de terrains de terre battue et tout ça. Fait que là, on avait finalement un projet pour faire des terrains de terre battue. On refaisait complètement la galerie de presse en même temps. Un gros projet, 15 millions, participation des trois paliers de gouvernement de Tennis Canada et tout ça. Et là, on en faisait l'annonce. Avec les ministres, Raymond Bachand qui était là, le provincial donnait plus d'argent, tout ça. Puis là, je voulais absolument avoir l'angle des athlètes, de dire, bien, ça va être, c'est un centre d'entraînement, on va développer des joueurs, des joueuses, et donc je voulais avoir une athlète. Et donc, évidemment, c'était le tournoi féminin, Valérie était là, elle ne pouvait pas me dire non, on venait lui donner un laissez-passer. Alors, elle a dit, bien oui, certainement, je vais aller dire un mot à la conférence de presse. Et donc, il y avait le représentant du fédéral, je me souviens plus c'était qui, là, le ministre Bachand, il y avait quelqu'un de la ville, il y avait moi, et finalement, Valérie qui vient faire son mot, et je te jure, elle a volé le show. Ça a été le hit de cette conférence de presse-là, qui était dans un environnement, écoute, c'était pas facile. Il vantait, on volait partout. On le faisait comme quasiment sur le coin d'une table et tout ça. Puis là, tout à coup, Valérie arrive et tout le monde écoute et tout le monde dit, ah, wow, OK, c'est ça le projet. C'est développer les athlètes et c'est ça, puis ça va être superbe. Alors là, c'est là que j'ai eu le kick sur, sur Valérie. Puis après, ben, pas longtemps après, ben, elle a quitté, elle a choisi d'arrêter de jouer. Tu pourrais raconter ça, Philippe, quand tu trouvais que la marche était le top 100, t'es déjà pas pire. Ben, ça, plus loin que ça, c'était autre chose. Mais enfin, je me souviens pas, Val, comment tu es rentré à Tennis Canada, mais moi, je souhaitais que tu viennes travailler chez nous. Alors ça, tu peux peut-être raconter ce bout-là.
Oui, bien, en fait, c'est intéressant parce que justement, 2010, qui est ma dernière année, effectivement, sur le circuit professionnel, bien, avec ces quelques prises de parole-là qui ont été possibles grâce à toi, Eugène, grâce à l'équipe qui était en place chez Tennis Canada, j'avais parlé aussi dans la conférence de presse, je pense, pour l'annonce des joueuses. Année-là. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à peut-être faire le saut vers une carrière aux communications. Et j'ai commencé donc à penser à mon après-carrière en tant que joueuse de tennis. Et donc, je me souviens que quand j'ai annoncé ma retraite, j'ai écrit quelques mots, dont un mot à toi, Eugène, puis évidemment, parce que tu réponds à tout le monde, tu m'avais répondu quelque chose de bien, mais je pense que j'essayais de placer mes cartes. Mon but était d'aller étudier en communication. Puis là, je m'étais dit, en attendant, je vais faire ce que plusieurs font, c'est-à-dire qu'au moins, je vais peut-être aller coacher un tout petit peu. Donc, à la base, en fait, j'ai été engagée comme entraîneur pour le programme 12 ans et moins chez Tennis Canada par M. Louis Borfiga. Je travaillais avec André Labelle. Ça a duré 2 semaines. Et j'ai eu le temps quand même d'avoir quelques séances avec Félix qui devait avoir justement 10-11 ans à l'époque. Puis je trouvais que déjà, il fallait que je joue à un niveau assez élevé pour tenir la cadence de Félix. Et après ça, en fait, la personne qui occupait le poste de coordonnatrice aux communications, qui était devenue une amie aussi, quittait son poste. Et c'est là que je suis allée voir Eugène et Louis-Philippe Doré, qui à l'époque était le directeur des communications. Et j'ai dit, écoute, je sais que j'ai pas d'expérience encore, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je pense que je suis capable. Et c'est là où j'ai eu leur confiance je ne pense pas que c'est nécessairement n'importe qui m'aurait donné déjà d'emblée ce poste-là sans aucune expérience. Mais c'est cette première chance-là, je pense, qui a fait toute la différence.
Non, ben, il y a le fait que tout ce que tu... Même, ça n'apparaissait pas que tu étais à tes premières armes, disons, en communication, soit en oral, là, dans tes entrevues et tout, ni dans tes écrits. Et tu sais, et toute la gang à Montréal sait comment c'est important pour moi, la qualité de l'écriture. Ça m'est apparu, je dis, ben, coudonc, c'est une naturelle avec le micro, mais c'est une naturelle avec la plume aussi. Alors, donc, la question se posait pas bien pour nous de dire si on la gardait ou pas. Oui, on voulait la garder du côté des communications. Ben, par la suite, elle a fait son chemin. Après quelques années, ben, le directeur des coms est parti. Alors donc, c'était un naturel qu'elle prenne la place de ce côté-là. Jusqu'à maintenant, quoi. Alors,
une question pour vous deux, peut-être. Je vous le disais un peu hors d'onde avant. Moi, je suis convaincu que la relation d'amour, de fierté que les amateurs ont avec le tournoi repose beaucoup sur la qualité des gens qui le gèrent, sur la qualité, sur les compétences et sur le talent, évidemment, dans ce que vous faites. Si vous nous parlez un peu des valeurs qui animent l'équipe, de Tennis Canada au Bureau de Montréal, ou peut-être, c'est peut-être la même chose au Canada, j'imagine que vous partagez un ADN commun et des valeurs communes, mais qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui fait que cette équipe-là roule sur un nombre de valeurs qui sont conjointes et qui fonctionnent bien au fil des années? C'est quoi les valeurs de Tennis Canada?
Moi, d'une part, j'ai toujours voulu que les gens qui travaillent chez nous comprennent exactement ce qu'on fait. Et donc, on organise un gros tournoi parce que, bon, Tennis Canada, c'est une grosse business. On développe le sport, on fait toutes sortes de choses, mais il y a deux côtés du cerveau, si on peut dire, le côté qui ramasse des sous pour faire ce que le deuxième côté du cerveau va faire, développer le sport. Alors nous, en travaillant au gros tournoi de tennis à Montréal, des fois, ça peut être très facile de perdre la notion de pourquoi on travaille exactement. Et donc, je l'ai souvent redit dans les meetings et tout ça, on travaille pour ramasser des sous pour le développement. Donc, il ne faut pas les regarder. Parce que souvent, tu regardes les coachs, ils font ça, puis là, ah, mais nous autres, on ramasse des sous, on est dans les grandes ligues ou quelque chose, pas du tout. Alors, et le démarrage, quand on a parti le Centre national à Montréal, je pense que ça a été aussi un truc intéressant parce que là, ça nous démontrait vraiment, noir sur blanc, ce qu'on faisait exactement parce qu'on voyait les jeunes s'entraîner toute la journée avec les coachs, puis tout ça. On descendait en bas pour dîner à la cafétéria, puis ils mangent avec nous et tout ça. Alors, à partir du début, avec les Milos Raonic, Vachek était là, même si des fois il dit qu'il n'est pas venu au centre. Lui, Eugénie, et là, tout le monde, et François Avanda, puis tout le monde, jusqu'à récemment, Bianca, Léla, Félix. Alors donc, il y a cette présence-là qui nous rappelle toujours en pleine face pour ce pourquoi on travaille. Et je pense que ça donne une couleur à tout ce que le monde fait, peu importe si c'est Claude Savard qui vend des grosses commandites ou Erwan puis Luca qui vend des gros packages de billets ou Nicolas puis Geneviève Marchand qui aménage un site incroyable et tout ça. Alors, chaque étape de ce qu'on fait pour faire que le tournoi soit le plus performant possible et le plus agréable pour tout le monde. Et on ne perd jamais de vue la raison ultime, que c'est parce que quand le tournoi va être fini, le lundi matin, bien là, l'organisation commence à développer le sport avec les sous qu'on aura pu faire dans ce temps-là. Alors, je pense que ça garde les gens connectés, branchés. Et puis, l'autre affaire, bien, c'est que j'ai toujours voulu que le monde s'amuse à faire ce qu'on... Tu sais, j'ai jamais voulu que les gens rentrent au bureau de reculons. D'après moi, en tout cas, on a réussi ça pas trop mal quand même, hein, Valérie. Les gens, on s'amuse, on a du fun. Puis, j'ai dit déjà un truc que je pense que ça n'a pas rapport, là, mais enfin, si on n'a pas de fun à l'organiser, les gens n'auront pas de fun à venir. C'est même pas vrai, mais ça marche.
Oui, ben c'est ce que j'allais dire, tu sais, pour ajouter peut-être au premier point que tu mentionnes, Eugène. Tu sais, je pense que ce que tu as réussi à mettre en place et qui se fait ressentir au final par le public aussi, ben, cette espèce d'esprit de famille qu'on a ici avec la gang à Montréal. Les gens s'entendent très bien, les gens veulent collaborer ensemble, s'entraider. Il n'y a jamais eu une histoire de titre, on dirait, au bureau de Montréal. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est une grande équipe et ça part d'Eugène parce que ben, même si Eugène est en charge de l'équipe depuis déjà très, très longtemps, c'est pas comme ça qu'il nous le fait ressentir. Il veut avoir l'opinion de tout le monde. Et je pense que c'est là que aussi il a eu un contact privilégié au fil des ans ben, avec le public qui venait assister au tournoi et réussissait finalement comme ça aussi à transmettre la mission même de Tennis Canada. Donc, ça, pour moi, c'est une valeur qui est très, très importante. Puis après, ben, justement, ça amène sur son style de gestion, son style de leadership. Et je pense que la phrase qui nous a le plus répétée au fil des ans, c'est juste du tennis. Donc, ça amenait aussi une autre perspective quand les gens s'emballent puis qu'on commence à être peut-être un peu trop stressé pour ramener tout le monde à fondamentalement ben, ce qu'on fait au jour le jour. Et puis, c'est vrai qu'on est privilégié de travailler dans ce monde-là.
C'est clair, parce que ce qu'on veut, c'est mettre un sourire sur la face des gens. Alors, leur faire admirer un bon spectacle, un beau spectacle qui s'amuse, qui leur faire passer du bon temps. C'est ça, c'est un divertissement quand même en bout de ligne. Et nous, en tout cas, je voulais au moins qu'on comprenne ça de notre côté, de la clôture. Des fois, on voit d'autres mondes de l'autre côté qui ont pas trop. Des fois, je me dis, il faudrait qu'on fasse une démonstration aux joueurs et aux joueuses qui viennent jouer. Il y en a qui, des fois, qui n'ont pas l'impression qu'ils comprennent ça, qu'on ne fait pas tout ça pour eux. Mm. C'est eux qui viennent pour jouer pour nous, et pour nous et pour les spectateurs et tout ça. Donc, des fois, ils ne comprennent pas toujours ça. Mais enfin, c'est ça qui est le but de l'affaire en bout de ligne. On essaie toujours beaucoup à monter des spectacles.
C'est un peu là que je m'en allais, Eugène, Valérie. Parlez-moi un peu de la relation de l'ATP, de la WTA avec le tournoi de Montréal et l'organisation, autant au niveau des joueurs qu'au niveau de l'administration. Est-ce que la relation, est-ce que la personnalité de l'équipe qui organise Montréal fait que la relation, elle est spéciale avec l'ATP WTA? En quoi elle serait spéciale, en fait?
Bien, moi, c'est peut-être difficile de juger parce que je ne vois pas les rapports qu'ils font à d'autres tournois, puis tout ça, mais nous, de façon constante, puis je le vois avec les messages que je reçois depuis hier du monde, du milieu international, des gens de l'ATP, de la WTA, les gens qui nous visitent, comment ils aiment venir à Montréal. Puis c'est constant dans les commentaires. Votre équipe à Montréal, c'est tellement facile de travailler avec tout le monde et c'est bien à l'image de toi, Eugène, puis whatever. Ben, ouais. Mais non, on est de même, qu'est-ce que tu veux? On veut que les gens soient bien, puis on veut qu'ils aiment leur séjour ici, puis on cherche pas de problème, on cherche à régler les problèmes qui peuvent arriver, qui arrivent à droite ou à gauche. Alors donc, et ils ressentent ça, cette façon de faire. Donc, c'est « Hey, on arrive à Montréal, ça va être une semaine facile. » Alors, c'est souvent ce qu'on se fait dire.
Oui, je pense que, tu sais, au-delà de seulement notre tournoi de tennis, à Montréal, au Québec en général, on sait recevoir. Et on aime prendre soin des gens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose au fil des ans qu'on a réussi à bien faire. Je pense que c'est ressenti par les gens de la WTA, les gens de l'ATP, mais aussi par les joueurs. Et après ça, je pense qu'il y a une bonne part du crédit, surtout quand on parle des joueurs, qui revient au public montréalais parce que il n'y en a pas d'autres tournois, je pense, où quand tu joues le lundi après-midi, c'est plein à craquer. Et peu importe que ce soit une année masculine ou une année féminine. Et ça fait toute la différence pour les joueurs. Ils viennent, on ouvre le site le vendredi pour une séance d'entraînement. Et puis, c'est bondé. les gens veulent voir les joueurs et c'est sûr que ça amène un gros plus pour n'importe qui frappe la balle au final pour être capable justement de transmettre leur passion aux amateurs de tennis. Donc, c'est un commentaire qu'on reçoit à chaque année et c'est sûr que ça a été encore amplifié là en 2022 avec le record d'assistance.
Jeanne, comment tu entrevois ton rôle de consultant puis et quelle sera ta relation avec Valérie dans les prochains mois ou prochaines années? Parce que moi aussi, ça faisait drôle quand on parlait de retraite hier, puis on s'en parlait un petit peu au début de la discussion, mais comment tu entrevois les prochains mois prochaines années?
Mais d'abord, s'il y a un truc qui est réel, c'est que je vais quand même me sortir du tournoi, vraiment. Donc, je n'ai pas de part active là, à partir de la fin de l'année dans l'organisation du tournoi. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que ma porte demeure ouverte, ou en tout cas, mon écran Teams ou Zoom ou quoi, ou Yardstream ou je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'au début, en tout cas, il va y avoir pas mal d'interactions pour avoir des précisions sur différentes affaires, parce que j'ai bien beau penser que c'est relativement simple, il y a rien de sorcier dans l'organisation, les gens sont tellement bons dans ce qu'ils font et tout ça, mais peut-être qu'il va y avoir des questions auxquelles je répondais, puis que je ne m'apercevais pas que j'étais peut-être le seul à avoir la réponse, alors on verra bien à ce moment-là, mais j'ai entière confiance que la gang va faire un super bon travail et que je ne serai pas trop mise à demander en ressources là, de ce côté-là, mais moi, je veux plus essayer de faire un bout sur le développement de l'accessibilité, surtout pour les jeunes, pour jouer au tennis à l'année longue. Ça veut dire d'avoir peut-être plus d'infrastructures publiques, ou en tout cas faire peut-être des partenariats publics-privés avec certains clubs ou des sortes. Il faut augmenter la participation, la rendre plus accessible. C'est le fin fond de ça, ben c'est les sous, hein, combien ça coûte pour jouer au tennis en bout de ligne. Alors, les municipalités offrent du hockey, du soccer, de la piscine, les gyms, toutes sortes de choses. Mais là, on pense qu'il y a une demande en tennis. Est-ce qu'ils ont, si on offre les infrastructures, ça va marcher? On l'a démontré au stade IGA depuis plusieurs années. C'est abordable. Il n'y a pas d'abonnement nécessaire, on réserve un terrain, c'est tout, on appelle, on réserve et c'est plein tout le temps. Alors, je ne vois pas pourquoi ça serait différent ailleurs, même ailleurs à Montréal ou ailleurs au Québec. Alors, donc, je vais voir ce qu'on peut faire de ce côté-là pour essayer d'améliorer la situation. Puis, je vais garder aussi un lien très serré avec notre infrastructure, donc le stade IGA lui-même. On sait que le stade vieillit quand même, il y a quand même des choses à faire. On est en train d'apporter des améliorations présentement. Donc, je continue à travailler avec mon collègue là, Nicolas Joël sur l'avenir du stade et comme tel. Alors, je vais en avoir bien assez comme ça. Fait que, puis je vais m'amuser à voir... À regarder aller mes collègues avec le...
Moi, je tiens à dire quand même qu'en 2022, on ne connaît plus vraiment les numéros de téléphone des gens, mais un des rares numéros que je connais par cœur, c'est celui d'Eugène.
Voilà. C'est certain que ça va être une chance pour tout le monde d'être toujours à un coup de téléphone d'une discussion. Peut-être une dernière question, Valérie, en terminant. Billie Jean King nous parlait la semaine passée à Montréal du sense of history. L'importance que les jeunes ou la relève aient ce sens de l'histoire-là. Et je pense qu'on a ce sens de l'histoire-là à Montréal, parce que quand je fais le survol, encore une fois, du dernier demi-siècle, Richard Legendre, Eugène, toi, je vous connais un peu tous les trois et je vois réellement une continuité dans dans la manière de faire les choses, la façon d'être, qui, encore une fois, qui selon moi est un facteur important dans le succès qu'on a eu au fil des années, à tout point de vue, au niveau sportif, au niveau infrastructure, au niveau administratif. C'est la façon que les gens ont conduit leur business qui nous amène là où on est aujourd'hui. Dis-moi, toi, comment tu vois maintenant que tu prends la relève de cette histoire-là? Comment tu appréhendes cette continuité puis cette façon de faire depuis un demi-siècle qui est maintenant sur tes solides épaules?
Bien, je suis contente en fait que tu parles de continuité parce que, bon, au-delà que ce soit ma candidature, je suis heureuse, même soulagée que Tennis Canada ait décidé d'aller vers quelqu'un qui de l'interne finalement. Parce que justement, ben, ça nous permet d'assurer cette continuité-là. Puis ça, c'est probablement ma priorité numéro un parce que ben, Eugène lui-même le disait lorsque lui est arrivé, évidemment, que Richard Legendre avait mis beaucoup de choses déjà en place et il avait l'impression d'avoir bon, un train qui était déjà en mouvement. Là, tout ça est encore amplifié aujourd'hui après les 22 ans à la barre de l'Omnium Banque nationale ou des internationaux du Canada d'Eugène. Et donc, mon but à moi, après avoir pu l'observer pendant bientôt 12 ans, ben, c'est effectivement d'assurer cette continuité-là. Après, ce que je trouve le fun aussi, c'est que j'ai l'impression en Eugène de voir quelqu'un qui, à quelque part, me ressemble un tout petit peu, ou plutôt que je ressemble à Eugène un tout petit peu dans ma personnalité. Bon, je ne suis pas quelqu'un de très, très extraverti. J'ai ma manière à moi de faire les choses. Et je pense que si aussi, depuis hier, je dis, ben ce ne sera pas évident, c'est pas demain matin que je vais être Eugène Lapierre, ben il va falloir que je sois Valérie Tétrault et que je vois ça aussi, où est-ce que ça va me mener. Mais après, on a une équipe qui est franchement vraiment formidable ici à Montréal, avec certaines personnes qui sont là depuis longtemps et qui vont donc continuer d'assurer cette continuité-là. Et puis d'autres personnes aussi qui viennent d'arriver plus récemment parce qu'on sait qu'on a dû se relancer un peu après la pandémie. La pandémie a été particulièrement difficile pour Tennis Canada. On a perdu beaucoup de gens, des gens qui étaient précieux pour l'organisation. Et ben là, nos ambitions, ben, elles sont grandes. On veut continuer à grandir. On voit cette fenêtre d'opportunité, je pense qu'on a parce que justement, depuis bon nombre d'années, on a décidé d'investir dans la haute performance et enfin, on a des joueurs qui vraiment peuvent aspirer au premier rang mondial ou à remporter des tournois du Grand Chelem. Et ça fait une grosse, grosse différence pour notre sport et ça nous permet de rêver grand. Et c'est ça qui s'en vient finalement dans les prochaines années. Donc, je suis emballée de pouvoir en faire partie.
En tout cas, on est convaincu que la suite est entre bonnes mains avec toi, Valérie, puis avec Eugène, qui ne sera pas très loin. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous. Donc, Eugène Lapierre, directeur sortant de l'Omnium Banque nationale. Valérie Tétrault, nouvelle directrice de l'Omnium Banque nationale. Ça a été un plaisir de vous parler sur la ligne. À très bientôt.
Merci beaucoup, Hugues.
Merci, Hugues.
Merci Hugues pour l'entrevue. Courte pause et au retour, je fais commenter cette nomination.
Profitez d'un séjour d'automne à l'Hôtel Montville qui inclura un jeu de société, deux cocktails signature, un délicieux petit déjeuner, un plateau d'huîtres, un plateau de fromage et de charcuterie. Tout cela à partager au restaurant. Planifiez un séjour gourmand au cœur de Montréal grâce à l'offre privilège de l'Hôtel Montville. Recevez une carte cadeau d'une valeur de $75 à dépenser dans notre restaurant durant votre séjour de deux nuitées au plus à l'Hôtel Montville. Ne manquez pas votre chance et réservez en ligne sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive.
Excellent travail, Hugues Léger, une fois de plus dans cette entrevue. Comment tu as trouvé la dynamique entre les deux? Est-ce que tu as senti que c'est une passation des pouvoirs qui ne pouvait être plus logique parce que c'est deux collègues, deux amis qui travaillent ensemble depuis tellement longtemps?
Dynamique est excellente, évidemment. Là, Eugène avait déjà repéré le potentiel de Valérie dès les premières années post-carrière quand elle a accroché sa raquette donc en 2010. Elle est rentrée très tôt chez Tennis Canada en 2011. À TVA Sport, on s'en souviendra en 2012, c'est moi qui l'avais engagée à TVA Sport. Puis je me disais, cette jeune fille de 23-24 ans à l'époque qui faisait preuve d'une maturité, d'une solidité, d'une éthique de travail à toute épreuve. Je voyais un très, très grand talent là, qui se développait tant au niveau média, communication que comme gestionnaire. Et ça s'est confirmé. Donc, évidemment, c'est une relation étroite que Valérie et Eugène ont entretenue depuis ces 10 dernières années, spécifiquement là, après sa carrière comme joueuse. Mais disons que c'est une équipe qui prend une autre dimension en ce moment. Il y a une continuité avec Valérie, mais il y a des gestionnaires très seniors qui se sont joints à eux depuis un an environ au niveau marketing, commercialisation, au niveau de l'expérience pour les fans aussi, au niveau du tournoi à Toronto et à Montréal. Donc, ils ont une équipe extrêmement complète en termes de compétences et de qualité, puis d'historique tennis aussi. Donc, c'est vraiment un mix idéal là, de l'ancienne équipe qui évolue et de nouvelles compétences qui sont jointes à l'équipe. Mais Valérie et Eugène, c'est une histoire spéciale. Je voulais qu'on parle de leur valeur, de leur personnalité. On a beaucoup parlé des accomplissements. C'était plus factuel. C'est ce qu'on a entendu sur différentes plateformes médias durant la semaine. Je voulais plutôt qu'on rentre sur leur relation plus personnelle, sur les valeurs qui animent cette équipe-là. Et on a eu vraiment des beaux commentaires de Eugène et Valérie.
Et tu sais, Valérie est une candidate, je pense, tout désignée parce qu'elle a joué le tournoi. Elle l'a dirigé d'une certaine manière, en tout cas d'un point de vue des communications. Elle le connaît sous tous ses angles, sous toutes ses coutures. Puis, comme tu dis, je pense qu'elle va être accompagnée par des gens seniors parce que c'est quand même un gros rôle là, qu'elle reçoit, Valérie. Et elle peut certainement relever le défi. Ça, il n'y a personne qui est inquiet pour elle. Mais effectivement, c'est bien de l'encadrer au départ parce que... C'est toute une promotion qu'elle reçoit d'une certaine manière, mais je pense qu'elle est la personne toute désignée. Nico, toi, Valérie, tu la connais peut-être depuis un peu moins longtemps que Hugues et moi, mais ton feeling sur cette nomination-là de Valérie Tétrault à la tête de l'Omnium Banque nationale?
Bien, ce que je trouve chouette, c'est que dans cette optique de Tennis Canada, de faire un changement de culture, puis de donner de plus en plus de place aux femmes, notamment dans un sport dans lequel on pousse de plus en plus, de voir qu'une fille comme Valérie Tétrault, qui est non seulement extrêmement sympathique, mais hautement compétente, je pense que c'est de bon augure pour Tennis Canada dans cette mouvance d'offrir plus de place aux femmes, d'avoir une femme comme ça à la tête du tournoi. Ça en dit long sur la volonté de Tennis Canada, et évidemment que Valérie, comme vous l'avez si bien dit, était la personne là, toute désignée.
Moi, Hugues, j'aime la cohérence de cette nomination-là, dans le sens qu'il y a beaucoup de tournois qui vont opter et il y a d'autres tournois qui ne le font pas, là, mais il y a beaucoup de tournois qui vont opter pour des gens de business. Et Eugène Lapierre venait du tennis. Valérie Tétrault vient du tennis. Alors, on garde une espèce de cohérence au niveau de... Bon, notre directeur de tournoi, c'est quelqu'un issu du monde du tennis. C'est pas un business, c'est pas une personne placée par un commanditaire qui va venir diriger le tournoi. Bon, on le voit dans, tu sais, comme avec Amélie Mauresmo à Roland-Garros, James Blake également. Moi, ce que j'aime, c'est que, bon... On garde quelqu'un issu du monde du tennis.
Oui. Je pense que Valérie va être une excellente leader pour ce groupe-là. Moi, je ne dirais pas, Nico, que c'est un changement de culture en tant que tel. C'est une évolution. Ils ont agrandi l'équipe, disons. Ils ont eu les moyens, grâce au renouvellement de la commandite de Banque nationale il y a environ un an, d'amener des nouvelles compétences qui viennent se greffer à un noyau extrêmement fort déjà. On pense à Richard Quirion, qui est là depuis un bout de temps. Évidemment, on pense à la continuité du niveau sport, du côté sportif aussi, tant à Toronto qu'à Montréal, avec les Atem McDaddy, Sylvain Bruneau, Guillaume Marx, Jocelyn Robichaud. Donc là, il amène d'autres compétences qui viennent se greffer, mais je pense que la culture va évoluer seulement. Elle va pas changer tant que ça. Oui, je suis d'accord, par contre, que de mettre une jeune femme à la tête de l'organisation, c'est un statement fort. Et en plus, c'est la bonne personne. Donc, c'est vraiment...
Ah, c'est super. Surtout ça. C'est, tu sais, ouais. Je veux dire, il n'y a pas personne qui pense que Valérie est là parce qu'elle est une femme.
Non,
c'est
absolument
la plus compétente.
N'oubliez pas que le rôle de directeur de tournoi, entre autres, c'est les relations avec l'ATP et la WTA, avec les joueurs, avec les enjeux reliés aux joueurs à chaque année. Eugène et Richard Legendre avant ont eu à faire face ou à composer avec des demandes particulières des John McEnroe, Serena Williams et autres. C'est pas un rôle facile. Il faut des qualités spécifiques, je dirais, pour être directeur du tournoi. Et je pense que le fait que Valérie amène aussi son bagage de joueuse sera un atout. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une équipe de All-Star qu'on a à Tennis Canada. Je l'ai mentionné durant la semaine sur différentes plateformes. Quand on voit... On voit ce qui se passe à Hockey Canada et les enjeux de gouvernance sociale qu'ils ont en ce moment, qui sont évidents. Ils ne réussissent pas à passer vraiment par-dessus, à comprendre vraiment ce qui se passe. On voit aujourd'hui qu'il y a des mouvements qui commencent à avoir cours là, avec la démission de la présidente du Conseil, mais il y en aura d'autres, c'est certain. Mais je veux dire que Tennis Canada est un modèle de gouvernance sociale à tout point de vue, tant au niveau du développement, au niveau de la santé mentale, au niveau diversité et inclusion. Et c'est une organisation qui performe en plus. Année après année,
ouais, les directeurs sportifs. Intéressant.
Ça fait vraiment plaisir que le sport qu'on adore vraiment soit aussi bien mené, aussi bien managé que ça au Canada en ce moment.
Ben, tu fais bien de le souligner. Bonne chance à Valérie Tétrault oui. dans ses nouvelles fonctions. Et ses nouvelles fonctions, slash pas nouvelles fonctions, parce qu'elle garde également le poste de directrice des communications de Tennis aussi. Canada. Là, c'est national, ce qu'il faut oui. garder en tête. C'est que, bon, elle ne fera pas que se concentrer sur l'Omnium Banque nationale. Ce qui était le cas également de Eugène Lapierre, là, précisons-le, qui était vice-président chez Tennis Canada. Alors, elle ne devient pas vice-président de Tennis Canada, mais bel et bien la directrice de l'Omnium oui. Banque nationale. Et elle garde son titre de directrice des communications. Messieurs, ben, une fois de plus, bonne chance à Valérie Tétrault. On va faire une courte pause. Et retour, on parle tennis parce qu'il y a eu beaucoup d'action la semaine passée.
Profitez d'un séjour d'automne à l'Hôtel Montville qui inclura un jeu de société, deux cocktails signature, un délicieux petit déjeuner, un plateau d'huîtres, un plateau de fromage et de charcuterie. Tout cela à partager au restaurant. Planifiez un séjour gourmand au cœur de Montréal grâce à l'offre privilège de l'Hôtel Montville. Recevez une carte cadeau d'une valeur de 75 $ à dépenser dans notre restaurant durant votre séjour de deux nuitées au plus à l'Hôtel Montville. Ne manquez pas votre chance et réservez en ligne sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive.
Messieurs, on a environ 12 à 13 minutes pour faire le tour de l'actualité dans les la semaine passée. Commençons par ce qui... Ben, la grosse nouvelle, à mon avis, du côté Canada, après la nomination de Valérie Tétrault, évidemment, ouais. Et la retraite de M. Eugène Lapierre. Billie Jean King Cup, équipe d'étoiles, Nicolas Richard, parce que Bianca Andreescu va être là, Leilani Fernandez va être là, Gabriela Dabrowski, une des meilleures joueuses de double au monde, va être là. Rebecca Marino et Carole Jao. Je veux dire, c'est peut-être le plus beau line-up de l'histoire de la Billie Jean King Cup du côté canadien. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, sans aucun doute. Toutes les joueuses canadiennes qui doivent être là sont là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait des années qu'on répète que Tennis Canada est peut-être le modèle à suivre et que c'est devenu le pays référent sur la planète tennis. Ben là, de voir que toutes les meilleures joueuses du Canada sont alignées pour défendre les couleurs de l'Unifolier, c'est assez exceptionnel. Hâte de voir maintenant comment va être la synergie dans cette équipe, parce qu'on le sait qu'il y a parfois une équipe qui est remplie de vedettes, beaucoup de talents, c'est pas toujours facile à gérer. Je n'ai aucun doute pour l'équipe canadienne, mais ces filles-là n'ont pas eu l'occasion de jouer souvent ensemble, tout ensemble à vrai dire. Donc, j'ai hâte de voir cette synergie, mais assurément que sur le plan talent, le Canada a un large avantage sur ses rivales.
Ouais, Hugues, gros line-up également.
Ah, wow, écoute, on verra dans quel état arrivera Bianca. Il est là aussi, hein, ils ont une année un peu les deux en dents de scie, mais c'est quand même incroyable ce qu'on aligne comme équipe en ce moment. Tant en simple qu'en double. Écoutez, la finaliste 2021 en Leilani Fernandez, la gagnante Andreescu du US Open, je parle du US Open évidemment, en 2019, c'est du gros calibre. Là. Et Gabi Dabrowski, qui est une des deux ou trois meilleures joueuses en double du côté féminin au monde, plus Rebecca Marino et Carole Zhao. N'oubliez pas que Rebecca en double avec son service, là, ça fait une arme incroyable. Fait qu'on a vraiment les meilleurs talents possibles. Et moi, je pense qu'on a une chance légitime de gagner la Billie Jean King Cup cette année. C'est pour ça que cette équipe-là a été formée. Même si on va avoir un groupe difficile, on en a un peu parlé, mais wow, très, très beau line-up pour les finales de la Billie Jean King Cup.
Et je pense aussi, les gars, que lorsqu'on parle de la Coupe Davis, notamment du format, du fait que c'est tiré sur plusieurs mois, plusieurs semaines, à différents moments dans la saison, et qu'on se dit peut-être qu'un format Coupe du Monde serait avantageux. Ben là, on a la preuve que d'avoir un tournoi à la fin de la saison, comme ça, à la fin du calendrier, peut réunir les meilleures joueuses au monde. Parce que si on avait eu ce tournoi-là, aux alentours du US Open notamment, je suis convaincu qu'on n'aurait pas une équipe aussi formidable que cela. Donc, lorsqu'on fait des compétitions internationales, je pense qu'on peut prendre ce petit échantillon pour prouver que d'avoir un tournoi qui est bien organisé en fin de saison est la meilleure solution.
Remarque, les formules se ressemblent quand même, là, Nico. C'est pas, on parle quand même pas d'un format Coupe du Monde
évidemment, mais lorsqu'on parle de la place dans le calendrier, de voir qu'un tournoi placé à la fin de la saison peut amener les meilleures joueuses au monde de chaque équipe, là, on a une vraie compétition.
Mais ce sera le cas des finales de la Coupe Davis aussi. Là. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que ça va peut-être mettre de la pression sur le côté masculin en disant mais regardez, là, les filles, ils ont le line-up A, ils ont l'équipe A. ben, peut-être que ce serait le fun d'avoir un chapeau qui se joint à l'équipe de la Coupe Davis pour les finales, d'autant plus qu'on se retrouve en finale par la porte d'en arrière d'une certaine manière. Ben, pas par la porte d'en arrière.
Oh, oui. Donc, tu peux le dire. On a un peu été un genre de lucky loser du draw de la Coupe Davis parce qu'on n'aurait pas dû être là parce qu'on avait quand même perdu contre les Pays-Bas et avec le retrait forcé de l'équipe russe, on est rentré par la porte d'en arrière. Oui.
Et puis, ben, on a fait notre chance après Félix a décidé de joindre à l'équipe. Puis,
exact.
En dépit d'être dans un groupe fort, on s'en est sorti quand même.
Opportuniste.
Oui, exact, opportuniste. Mais tu as raison, on est un peu les lucky losers, c'est bien dit de cette façon-là. On ne s'étendra pas trop sur la Coupe Billie Jean King, messieurs, parce qu'on fera l'analyse du tournoi un peu plus tard. Le Canada est dans un groupe assez fort, mais il y a un groupe encore plus fort. On s'en reparlera un peu plus tard, si vous le voulez bien, parce que je veux qu'on revienne sur ce tournoi à Tokyo, parce que mine de rien, c'est une deuxième bonne semaine de suite pour Shapovalov, Nico?
Oui, pour Denis Shapovalov, ça a très, très bien été une fois de plus en Asie. On le sait, Denis semble connaître des meilleures fins de saison que des débuts de saison. Là, depuis 2-3 ans, on l'avait dit la semaine dernière, c'est aussi vrai. S'incline en demi-finale devant Taylor Fritz. Et il faut parler, les gars, de Taylor Fritz. Vous savez, ce n'est pas un secret pour personne que c'est l'un de mes joueurs favoris sur le circuit. Et là, enfin, atteint le top 10. Il l'avait déjà atteint en vertu de cette victoire contre Shapovalov, donc il était assuré de faire son entrée dans le top 10. Et pour Taylor Fritz, je me rappelle d'une discussion que j'avais avec lui à l'Omnium Banque Nationale sur la passerelle, puis tu sais, je lui disais à quel point tu es satisfait de ta saison. Tu as gagné Indian Wells, tu as fait tes preuves en tournoi du Grand Chelem. Rappelez-vous ce match complètement fou contre Nadal à Wimbledon. Ouais. Il est devenu, sans contredit, le meilleur Américain, puis je lui ai dit à quel point tu es satisfait de ta saison. Il dit « Je ne serai pas satisfait tant que je ne serai pas dans le top 10. » C'est ça mon objectif. Et là, de voir qu'il l'atteint. Puis rappelez-vous, là, on a vu les images là, à la fin du match contre Chapeau. Il a scandé « top 10, top 10 ». Comme si, au-delà de sa victoire, pour accéder à la finale, c'était presque secondaire. Son objectif en début de saison, c'était d'atteindre le top 10. Il l'a fait. Il est dans la race pour les finales de l'ATP. Lorsqu'on parle d'un gars, pardonnez-moi l'anglicisme, d'un gars clutch, d'un gars qui brille dans les grandes occasions pour atteindre ses buts en fin de saison comme ça, je trouve ça formidable. Et quelle belle finale contre Francis Tiafoe. Le tennis américain, les gars, est en santé.
Reprend du poil la bête, en tout cas, ça, c'est certain. C'est intéressant, ça. Est-ce que Taylor Fritz est le meilleur Américain ou est-ce que c'était justement le finaliste Francis Tiafoe? Enfin, on peut en reparler. Hugues Léger, performance de Shapovalov intéressante également. Une autre bonne semaine pour lui, une victoire de Taylor Fritz.
Oui. C'est un des joueurs depuis quelques années qui a le meilleur pourcentage de victoires après l'US Open. Mmh. Donc, il semble aimer cette période.
Chapeau,
de l'année.
Ça?
Beaucoup. Je pense que la tournée asiatique lui va bien, mais j'en ai aussi parlé. Je pense que c'est pas étranger au retour de Mikhail Yuzny dans son entourage. Là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à retrouver son aplomb, on dirait, là, durant l'US Open, en fait. Donc, belle fin de saison. C'est rassurant parce qu'on sentait un peu à la dérive durant l'été, Denis, et là, ben, il est vraiment de retour et il va recommencer à bien monter au classement et avoir des ambitions très, très louables là, vers le top 15 ou même le top 10, pourquoi pas.
Et Nico, c'est toi qui nous apprenais tout à l'heure, je n'avais pas vu ça passer, moi, que dans le cas de Taylor Fritz, sa mère également avait été dans le top 10. Katie May avait été dans le top 10 à la fin des années 70. Alors, telle mère, tel fils, Nico. Toi, t'aimes ça, ces histoires-là.
Chose que j'ignorais, puis je trouve que ça ajoute un aspect intéressant à cette histoire-là, qui est celle de Taylor Fritz, qui est un gars qui est un peu, bon, je dirais pas sous-estimé parce qu'il est quand même top 10, mais c'est un gars dont on parle très peu malgré son ascension fulgurante. C'est un gars qui est depuis longtemps identifié comme l'un des meilleurs espoirs du tennis nord-américain. Et j'ignorais donc que sa mère, tu l'as dit Alex, de son nom, mais elle a été donc top 10 elle aussi. Il l'a dit aussi sur les médias sociaux, là, oui, je suis content d'être top 10, mais je suis content d'avoir aussi réalisé un exploit que ma mère a réalisé et de continuer dans cette lignée familiale. Donc oui, un autre cachet intéressant pour cette histoire de Taylor Fritz.
Tu parlais de sa victoire à Indian Wells. Il avait été le premier Américain en plus de 20 ans à remporter. Alors, va peut-être prendre la relève. Hugues, tu voulais acheter quelque chose sur Taylor Fritz?
Ben oui, il l'a bien mérité. Hein. C'est quand même ses victoires contre Shapovalov et Tiafoe, c'est des grosses victoires. Donc, c'est 100% mérité. Et il devient, en fait, le dixième Américain différent à gagner un ATP 500. Mais surtout le premier depuis Sampras en 96. Donc, je parle des ATP 500, évidemment, il y a eu d'autres victoires. On a parlé en Masters 1000 notamment. Mais tout d'un coup, effectivement, comme dit Nico, le tennis américain semble reposer ses bases de puissance mondiale. Moi, j'avais plus envie de dire ça des Américains depuis quelques années. Mais là, avec Tiafoe et Fritz qui s'installent, je pense que les États-Unis sont de retour dans les nations de tête au niveau mondial.
Non seulement ça, j'en ai parlé dans la presse notamment. T'sais, oui, on a mais ces deux gars-là, mais il y a Brooksby qui s'en vient, il y a Korda qui s'en vient, et ça, on n'a pas parlé du côté américain, là, avec Coco Gauff, avec Jessica Pegula.
Les filles, absolument.
C'est vraiment fascinant ce qui se passe du côté américain.
Oui, John Isner et Opelka ne sont pas sortis du décor encore. Exact, là, alors, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur. En tout cas, ça, c'est certain, les Américains. Alors, belle victoire de Taylor Fritz qui suit les traces de sa mère. En fait, même dépasse les traces de sa mère, je pense, si on regarde d'un point de vue des résultats atteints. Messieurs, à Astana, on a eu peut-être un des matchs de l'année, mais qui s'est terminé avec, Abruptement, alors que Novak Djokovic et Daniil Medvedev s'affrontaient dans un match de tous les instants, mais Medvedev a abandonné Hugues.
Oui, ben, un match popcorn, hein, comme on les appelle. Je vous ai envoyé un petit message hier matin et c'était pas décevant. Victoire dans le premier set de 6-4, Medvedev. Medvedev a le numéro de Djokovic. Là. Il jouait vraiment bien. Djokovic n'a pas beaucoup de solutions contre Medvedev. Le deuxième set s'en va au tie-break. Djokovic le gagne à l'arraché. Medvedev a tout donné. Il se retire. Aïe, aïe, aïe. On verra pas de troisième set comme tout le monde s'y attendait. Apparemment, Medvedev est blessé à une cuisse. Il s'est dit, si j'arrêtais pas maintenant, je perdais 6 mois après pour m'en remettre. Et donc, j'aime mieux perdre quelques semaines et revenir pour la fin de l'année, notamment au Masters de Paris et au final de l'ATP. Donc, espérons que tout va bien aller, mais ça a vraiment été une fin décevante parce que c'était tout un match de tennis.
Mais disons-le, les gars, je pense que Tsitsipas va devoir un petit souvlaki à Medvedev parce que Tsitsipas, il était en feu. Il avait battu Urkac et Rublev.
Oui.
Il était vraiment dans de bonnes conditions et le match contre Djoko a vraiment pas été à son avantage et je me demande à quel point Djoko est arrivé là plus frais qu'il ne l'aurait été s'il avait disputé une troisième manche contre Medvedev.
Bon point.
Je pense que ça aurait été plus à force égale, mais sans rien enlever à la victoire de Djoko, évidemment, mais je suis convaincu que cette économie d'énergie pour un Djoko qui n'a pas joué beaucoup cette année a certainement aidé dans cette finale.
Ça se peut, mais moi, je suis impressionné du résultat. Vous le savez, les gars, on en parle souvent. Djokovic, c'est une machine. Là. Je vous le dis, je pense qu'il ne sera jamais le GOAT pour plein de raisons. Mais ce qu'il livre au tennis avec son retour en ce moment, c'est incroyable. Deuxième victoire de suite. Sa 90e victoire, donc... en simple, c'est quand même exceptionnel, deux semaines de suite. Et la précision qu'il a démontrée dans le match contre Tsitsipas, c'était de toute beauté. 6-3, 6-4, il a plié ça assez simplement, mais vraiment une belle domination de Djokovic. Il est impressionnant cette fin d'année. Je pense qu'il revient avec le couteau entre les dents. Là. Il va remonter au classement. Et beaucoup de joueurs disent « c'est pas normal ». C'est pas bon pour le tennis qu'il soit numéro 7 en ce moment. Ça ne reflète pas la réalité de ce qui se passe en ce moment. Il le prouve semaine après semaine.
C'est un peu la faute de Wimbledon, par contre.
Absolument.
Tu l'as dit, Hugues, 90e, va-t-il rejoindre Roger?
Écoute, pourquoi
pas? Il est à 13. Il est à 13 d'égaler Roger.
Oui.
Dans mon livre à moi, s'il y a encore deux bonnes années, c'est franchement possible.
Au rythme où il est en ce moment, pourquoi pas, clairement.
S'il peut jouer aux États-Unis et en Australie, ça va l'aider un peu. Parce que si tu manques la moitié de la saison à chaque saison en fin de carrière.
J'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'enjeu pour son parcours à travers la planète en 2023.
Ça se pourrait que ça change. Messieurs, la dernière semaine a eu des conséquences assez importantes pour la race, comme on dit, parce que là, Novak Djokovic souffle dans le coup de Félix Auger-Aliassime, qui est présentement au 8e rang. D'ailleurs, c'est fait dépasser par Taylor Fritz. Là, cette semaine, Taylor Fritz est 7e à la race. Félix est le 8e. En théorie, bon, ce sont les 8 meilleurs joueurs, mais Novak est 10 à peine une centaine de points, même pas une centaine de points de Félix Auger-Aliassime. Novak Djokovic se replace très sérieusement dans cette race. Est-ce qu'il va jouer un peu plus de tournois pour aller mieux se placer puis s'assurer de faire ce tournoi de fin de saison-là, messieurs?
Ben, il va le faire. Il est qualifié maintenant d'office parce que ce qui manquait, tu avais raison il y a une semaine, le fait qu'il ait gagné un grand chelem lui donnait une possibilité, mais il fallait qu'il soit aussi top 20. Donc là, il est assuré de finir top 20 avec sa victoire cette semaine. Donc, il est qualifié pour les finales. Mais attention, Alex, il n'y a pas juste Djokovic qui chauffe Félix. Il y a Hurkacz en ce moment, qui est à 25 points ou à peu près, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus. Là. Il est à peu près à 100 points de Félix, mais Hurkacz joue bien. Il pourrait le rattraper aussi. Donc, c'est pas plié encore pour les finales d'ATP avec...
Ça, un peu moins temporaire. Alors, c'est ça, hein, c'est Novak Djokovic, il était bel et bien qualifié en raison de son
titre. Il l'est cette semaine. Chemin. Il n'était pas c'est la semaine ça. Passée. C'est parce qu'il est assuré de terminer qualifié parce qu'il est assuré de finir top 20.
Dans le fond, les gars, de ce que je comprends, pour aiguiller les auditeurs aussi, là, ça, tout se joue entre Félix et Hurkacz.
Oui.
C'est un ou l'autre.
Ben, écoute, Zverev n'est pas si loin non plus. Ben, Cameron Norrie. Ben, c'est ça. Mais ou, ça dépend des tournois. Je veux dire, il reste quand même un gros tournoi à Paris. S'il fallait que Yannick Sinner remporte Paris et que Félix n'ait pas une si bonne fin de saison que ça, c'est pas fait. Il a son sort entre ses mains au moment où on se parle. Ouais. S'il avance systématiquement dans les tournois, ce sera une bonne nouvelle pour lui. Mais c'est pas fait dans son cas. Mais souhaitons-le dans le cas de. Félix Auger-Aliassime. Messieurs, il y a eu des tournois intéressants du côté des hommes et du côté des femmes, mais peut-être la chose la plus surprenante du week-end, c'est Swiatek qui a perdu en finale, et c'est pas parce que son adversaire n'était pas de calibre. Krejcikova, c'est une excellente joueuse, mais quand même, on n'a pas vu ça souvent cette année, Swiatek perdre en finale, Luc.
Non, puis bon, ça a été un match épique là, entre ces deux joueuses-là. Donc 5-7, 7-6, 6-3 pour Krejcikova. Swiatek aurait pu plier ça dans le tie-break du deuxième, elle n'a pas réussi. Donc bravo pour Krejcikova, mais encore une fois, Swiatek connaît une année juste incroyable. Les filles sont très impressionnées là, par son niveau encore, mais c'est quand même le fun de voir une finale qui est bien disputé. Donc bravo à Krejcikova, belle victoire cette semaine.
Nico, commentaire?
Oui, puis tu sais, d'autant plus qu'on n'a pas vu tant que ça Krejcikova cette année. On sait qu'elle est très bonne, mais elle n'est pas ressortie. Elle n'a pas eu la grosse victoire, évidemment, que Swiatek a tout ravagé. Mais de voir Krejcikova qui dit « Attendez, là, je ne suis pas sorti du portrait, je peux battre la meilleure au monde », ça augure bien pour la saison prochaine, je trouve.
Oui.
Oui, ben effectivement, ce sont deux championnes de Grand Chelem quand même qui s'affrontaient dans cette finale-là. Messieurs, c'est déjà tout pour cette émission, ce nouvel épisode du Radio Podcast sur la ligne. Je rappelle qu'on est diffuseur officiel de l'Omnium Banque Nationale qui est maintenant dirigé par Valérie Tétrault. Je le rappelle, on en a parlé en début d'émission. Hugues, rapidement, qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine?
Ben, on surveille Andreescu et Leila dans le tableau principal du 500, WTA 500 à San Diego. Très hâte de voir ce qui va se passer. Malheureusement, Rebecca Marino n'a pas réussi à se qualifier et à sortir du tableau des qualifs, mais Bianca et Leila sont en action cette semaine.
Voilà. Alors, merci messieurs et Nicolas Richard. On te laisse retourner avec tes convives, mais avant, tu as la lourde tâche, comme c'est la tradition, de terminer l'émission.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.